Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ou bien chers amis, nous arrivons à la fin du chapitre 23 de Saint-Luc, fin de la Passion, sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église pour les chapitres 21, 22, 23 et 24, nous en sommes à la page 21. Je voudrais, avant de commencer directement le commentaire des Pères, terminer les citations que j'avais utilisées, commencé à utiliser la dernière fois, au dernier cours, de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est un merveilleux exégète. Il est très connu comme théologien, beaucoup moins comme exégète, et c'est très dommage. Saint Thomas d'Aquin avait lu dans son jeune temps tous les pères de l'Église grecque et tous les pères de l'Église latine, des dizaines et des dizaines de volumes, de gros volumes, et il avait tout retenu par cœur. Il avait un don qu'il avait reçu du bon Dieu de tout retenir par cœur, et à partir de cette mémoire phénoménale qu'il avait, que le bon Dieu lui avait imparti, il a fait un commentaire donc que j'utilise pour ce cours, la chaîne d'or. Il a repris tous les commentaires des pères de l'Église pour chaque verset des évangiles. Mais il y a des choses qui ne sont pas dans ce commentaire que je voudrais reprendre ici. Voilà un résumé de ce qu'enseigne saint Thomas d'Aquin dans la Tertia Pars, donc la troisième partie de la Somme. Dans le traité sur le Verbe incarné, il a toute une partie sur la Passion. Et nous en sommes ici, ce qu'explique saint Thomas d'Aquin, question 46 à partir de l'article 5. Je vais vous citer certains passages de saint Thomas qui sont splendides. Donc il se pose la question, c'est notre sujet, puisque nous en sommes au chapitre de la Passion, du caractère universel de la Passion. Et il va expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, a enduré toutes les passions, toutes les souffrances sous un triple rapport. D'abord de la part des hommes qui les lui ont infligées. Il a souffert de la part des païens, des juifs, des hommes et des femmes, comme on le voit avec les servantes qui accusaient Pierre. Il a encore souffert de la part des chefs et de leurs serviteurs, et aussi de la part du peuple. Il a aussi été affligé par tous ceux qui vivaient dans son entourage, sa familiarité, puisque Judas lui-même l'a trahi, que Saint-Pierre l'a trahi, l'a renié. Deuxièmement, le Christ a également enduré tout ce qui peut faire souffrir un homme. Il a souffert dans ses amis qui l'ont abandonné, dans sa réputation par les blasphèmes proférés contre lui, dans son honneur et dans sa gloire par les moqueries et les affronts qu'il dut supporter, dans ses biens lorsqu'il fut dépouillé de ses vêtements, et dans son âme par la tristesse, le dégoût, la peur, dans son corps par les blessures et les coups. Troisièmement, il a souffert également dans tous les membres de son corps. Le Christ a enduré à la tête les blessures de la couronne d'épines, aux mains et aux pieds les percements des clous, au visage les soufflets, les crachats et sur tout le corps la flagellation. De plus, il a souffert par tous ses sens corporels, par le toucher quand il a été flagellé et cloué à la croix, par le goût quand on lui a présenté du fiel et du vinaigre.
Par l'odorat, quand il fut suspendu au gibet en ce lieu appelé calvaire, rendu fétide par les cadavres des suppliciés, par l'ouïe, lorsque ses oreilles furent assaillies de blasphèmes et de railleries, et enfin par la vue, quand il vit pleurer sa mère et le disciple qu'il aimait. Puis saint Thomas se pose la question de savoir si la douleur que le Christ a endurée dans sa passion fut la plus grande qui soit. Et voilà ce qu'il dit. Dans sa passion, le Christ a ressenti une douleur réelle et sensible, causée par les supplices, corporelle, une douleur intérieure, la tristesse produite par la perception de quelques nuisances. L'une et l'autre de ces douleurs chez le Christ furent les plus intenses que l'on puisse endurer dans la vie présente, pour quatre raisons. D'abord par rapport aux causes de la douleur. Pourquoi ? Parce que la mort des crucifiés est la plus cruelle qui soit. Quant à la douleur intérieure du cœur, elle avait plusieurs causes. En premier lieu, tous les péchés du genre humain, pour lesquels il satisfaisait en souffrant si bien qu'il les prend à son compte. Et également pour la chute des Juifs et de ceux qui lui infligèrent la mort, surtout des disciples qui tombèrent pendant sa passion. Enfin, la perte de la vie corporelle qui par nature fait horreur à la vie humaine. Deuxième raison, c'est l'intensité de cette douleur. On peut mesurer l'intensité de la douleur et la sensibilité de celui qui souffre dans son âme et dans son corps. Et chez le Christ, le sens du toucher dont les perceptions produisent la douleur était extrêmement délicat. Son âme aussi percevait avec la plus grande acuité dans ses puissances intérieures toutes les causes de tristesse. Troisièmement, l'intensité de la douleur du Christ peut aussi s'apprécier par la pureté de la douleur de sa tristesse. Quatrièmement, on peut enfin évaluer l'intensité de la douleur du Christ d'après le fait que sa souffrance et sa douleur furent assumées volontairement en vue de cette fin, libérer l'homme du péché. Toutes ces causes réunies montrent à l'évidence que la douleur du Christ fut la plus grande de toutes. Le Christ donc a voulu délivrer le genre humain du péché non seulement par sa puissance mais encore par sa justice. C'est ainsi qu'il a tenu compte non seulement de la puissance que sa douleur tirait de l'union à sa divinité mais aussi de l'importance qu'elle aurait selon la nature humaine pour procurer une si totale satisfaction. Donc je passe sur certains passages, je m'arrête sur les passages les plus importants. Lorsque le Christ, dit saint Thomas, a souffert, la jouissance qui était propre à l'âme du Christ en tant que bienheureuse n'a pas été empêchée par sa passion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Christ avait toujours la vision béatifique puisqu'il est toujours Dieu. Lorsque le Christ était pèlerin sur cette terre, il n'y avait pas de rejaillissement de gloire de la partie supérieure de son âme sur la partie inférieure, ni de l'âme sur le corps. Mais réciproquement, la partie supérieure de l'âme du Christ n'était pas entravée dans son opération propre par la partie inférieure. Il en résulte qu'elle a joui parfaitement la vision bienheureuse tandis que le Christ souffrait. Il est toujours Dieu, il a toujours la vision béatifique. Donc je saute certains passages. Je vous conseille beaucoup, pour tous ceux qui ont le temps, de relire le traité de la Passion de saint Thomas d'Aquin. Vous l'avez sur les cours que j'ai donnés sur la Passion du Christ, sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Vous avez tout le cours sur le traité du Verbe incarné à partir des questions autour de la question 45, 46, etc. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses et vous pouvez relire ça et réécouter ces cours qui complète parfaitement le cours que je suis en train de donner aujourd'hui sur la Passion à partir des Pères de l'Église sur le texte de saint Luc. Donc, saint Thomas nous fait remarquer qu'il ne convenait pas pour qu'un prophète meure hors de Jérusalem. C'est l'enseignement de saint Luc. Mais le Christ était prophète, donc il convenait donc qu'il souffre à Jérusalem. Et donc, c'était le lieu choisi par Dieu pour qu'on lui offre les sacrifices. C'était là où il y avait le temple. Sacrifice figuratif symbolisait la passion du Christ, sacrifice véritable. Deuxièmement, la vertu de sa passion devant se répandre dans le monde entier, le Christ a voulu souffrir au centre de la terre habitable, à Jérusalem. Troisièmement, ce lieu convenait au plus haut point à l'humilité du Christ. Lui qui avait choisi le genre de mort le plus honteux ne devait pas refuser de souffrir la honte dans un lieu aussi fréquenté. Quatrièmement, il a voulu mourir à Jérusalem, où résidaient les chefs des peuples juifs pour montrer qu'ils étaient responsables de l'iniquité commise par ces meurtriers. Le Christ a souffert non pas dans le temple, dans la ville, mais hors des portes. Il a souffert au calvaire, donc hors de la ville de Jérusalem. Pour trois raisons. D'abord, pour que la réalité réponde à la figure. Deuxièmement, afin de nous enseigner à quitter la vie du monde. Rappelez que le taureau et le bouc, offert dans le sacrifice le plus solennel, étaient brûlés hors du camp. Notre Seigneur Jésus-Christ était le sacrifice offert en réparation de nos péchés, donc il convenait qu'il mourût hors de la ville. Deuxièmement, il est mort hors de la ville afin de nous enseigner à quitter la vie du monde. Troisièmement, le Seigneur n'a pas voulu souffrir sous un toit dans le temple juif pour empêcher les juifs d'accaparer ce sacrifice de salut en faisant croire qu'il avait été offert seulement pour leur peuple. Aussi a-t-il souffert hors de la ville, hors des remparts, pour vous faire savoir que ce sacrifice a été offert pour tous. On va retrouver d'ailleurs ce texte exactement dans le commentaire que j'utilise. Le Christ devait donc être crucifié dans le terrain commun des condamnés plutôt qu'auprès du tombeau d'Adam pour montrer que la croix du Christ guérissait non seulement le péché personnel d'Adam, mais aussi le péché du monde entier. Alors saint Thomas creuse encore pour demander, se poser la question de savoir pourquoi est-il nécessaire que notre Seigneur Jésus-Christ mourût entouré de deux brigands. C'est la prophétie d'Isaïe au chapitre 53. Il a été compté parmi les criminels. Ils crucifièrent donc deux bandits de part et d'autre du Christ pour faire partager au Christ leur honte. De même que pour nous, le Christ s'est fait malédiction sur la croix, il a été crucifié comme un criminel entre des criminels pour le salut de tous. Deux bandits sont crucifiés, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, on va voir tout ça, pour que même le spectacle du gibet montre la séparation qui sera opérée entre tous les hommes au jour du jugement par le Christ. Si vous faites attention, la croix elle-même est un tribunal. Le juge en effet siégeait au milieu, l'un des voleurs qui a cru a été libéré, l'autre qui a outragé le Seigneur a été condamné. Il manifestait déjà ce qu'il ferait un jour à l'égard des vivants et des morts, en plaçant les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Donc la croix du Christ est comme un lieu de jugement qui rappelle ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, en séparant les brebis des boucs, les bons à sa droite et les mauvais à sa gauche. Donc à sa droite et à sa gauche sont crucifiés deux bandits qui montrent que la totalité du genre humain est appelée au mystère de la passion du Seigneur. Le partage des fidèles et des infidèles se fait entre la droite et la gauche. Ainsi, aussi le bandit placé à droite est-il sauvé par la justification de la loi. Les bandits crucifiés avec le Seigneur représentent ceux qui sont sous la foi et la confession du Christ, subissent le combat du martyr ou embrassent une forme de vie plus austère. Ceux qui agissent pour la gloire éternelle sont figurés par le bandit de droite, et ceux qui agissent pour recevoir la louange des hommes imitent le bandit de gauche dans son esprit et dans ses actes. Alors je passe. Donc on pourrait expliquer cela, tout cela pendant des heures et des heures, donc je ne veux pas reprendre complètement tout le cours que j'ai déjà donné sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc je vais arrêter là ces commentaires, ces extraits des textes de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Alors, je continue donc sur le fichier des chapitres 21 à 24 de Saint-Luc, à la page 21. Nous sommes au verset 34, 35, 36 et 37 du chapitre 23 de Saint-Luc. Jésus disait « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Partageant ensuite ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Et le peuple se tenait là, regardant, et avec lui, les chefs se moquaient de Jésus, en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi l'insultaient, s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre, en disant « Si vous êtes le roi des Juifs, sauvez-vous. » Donc voilà ce que dit saint Ambroise. Il importe de considérer dans quel état Jésus monte sur la croix. Je le vois entièrement dépouillé de ses vêtements. Tel doit être celui qui veut triompher du monde. Il ne doit rechercher ni les biens ni les consolations du siècle. Donc les vêtements représentent les habits du siècle, les habits, la richesse donc. Notre Seigneur Jésus-Christ meurt dépouillé de ses vêtements pour bien montrer que pour triompher du monde, il faut se dépouiller de toutes les consolations du siècle, donc de toutes les richesses du siècle. Adam fut vaincu par le démon, se couvrit de vêtements. Dès que Adam, qui était nu et qui ne rougissait pas de sa nudité, puisqu'il n'y avait pas encore le péché originel, dès qu'il eut commis le péché originel, il se cacha. Il eut honte de sa nudité et il se tressa des habits avec des feuilles. Donc Adam fut vaincu par le démon, se couvrit de vêtements. Jésus se dépouille de ses vêtements, un triomphe de l'ennemi du salut, pour bien montrer que le nouvel Adam vient rattraper la faute du premier Adam. Le nouvel Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il monte donc sur la croix tel que Dieu a formé l'homme dès l'origine. C'est dans cet état que le premier Adam habita le paradis terrestre, c'est dans le second état que le second Adam entre dans le paradis des cieux. Donc notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la terre d'Adam, puisque je vous ai dit que les anciens croyaient, avec raison, non, on ne peut pas le savoir, historiquement ça n'a jamais pu être prouvé, je vous l'ai déjà dit. Notre Seigneur est mort au Golgotha, sur le mont Moria, donc à l'endroit précis où, selon la tradition juive, le crâne d'Adam était conservé. Donc le nouvel Adam venait rattraper la faute du premier Adam. Ce n'est pas sans raison, disent les pères, qu'avant de monter sur la croix, il se dépouille de ses vêtements. Il voulait nous apprendre que c'est en tant qu'homme qu'il a souffert et non comme Dieu. Bien que le Christ soit l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que en tant que Dieu, notre Seigneur n'a pas besoin de vêtements puisqu'il est pur esprit. C'est en tant qu'homme qu'il va s'habiller. Celui qui, par amour pour nous, s'était soumis à toutes les conditions de notre nature, se couvrit aussi de nos vêtements, signe de la mortalité d'Adam, pour s'en dépouiller ensuite et nous revêtir en échange de la vie et de l'incorruptibilité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ passe d'une vie à une autre vie, d'une vie terrestre, matérielle, à une vie de corps glorieux. Autre citation, cette fois de Saint Bède, pour commenter le verset, attendez, le sort paraître ici le symbole de la grâce de Dieu, c'est verset 34, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », et partageant ensuite ses vêtements, les soldats les tirèrent au sort. Donc, quand on consulte le sort, on ne tient aucun compte des personnes et du mérite, on abandonne tout au secret jugement de Dieu, c'est pour ça que les anciens utilisaient beaucoup le sort, ils tiraient au sort certaines choses, c'est ainsi que Saint Matthias a été choisi par les apôtres, par les disciples, pour être remplacé Judas qui s'était pendu. Un médecin ne fait point connaître son talent médical en se guérissant lui-même et en appliquant sa science aux maladies des autres. Ainsi, notre Seigneur, qui était notre sauveur, n'avait pas besoin d'être sauvé, puisqu'il n'a jamais péché. Il voulut être connu pour sauveur, non pas en descendant de la croix, mais en mourant sur la croix. Car en mourant sur la croix, il a sauvé bien plus efficacement les hommes qu'il n'aurait pu le faire en descendant de la croix. Donc notre Seigneur exerce sa miséricorde principalement en mourant sur la croix pour nous. Remarquons, maintenant, pas de la page 21, que les Juifs font du nom du Christ, que les Écritures leur avaient appris, l'objet de leur blasphème et de leur dérision, tandis que les soldats qui ne connaissent pas les Écritures n'insultent pas le Christ, l'élu de Dieu, mais le roi des Christ, le roi des Juifs. On va voir d'ailleurs que certains des soldats romains vont se convertir, entre autres Saint Longin, qui est le soldat qui a donné le coup de lance. Alors avançons avec la page 22. Donc, je vous recommande beaucoup, pour ces passages qui sont tellement importants, de relire par vous-même après le cours. C'est une bonne chose d'écouter le cours en audio, mais relisez ensuite le polycopier, c'est pour ça que je le mets. Aussi, essayez d'avoir le polycopier sous les yeux quand vous suivez le cours. Nous en sommes donc au chapitre 23 de Saint Luc, chapitre 23, versets 38 à 43, en page 22, en haut de la page. Il y avait aussi au-dessus de lui une inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Or, l'un des voleurs, suspendu en croix, le blasphémait en disant : Si vous êtes le Christ, sauvez-vous, vous-même et nous avec vous. Mais l'autre le reprenait en disant, « Vous non plus, vous ne craignez donc pas Dieu, vous qui êtes condamné au même supplice. Encore pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos œuvres, mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et il disait à Jésus, « Seigneur, souvenez-vous de moi, lorsque vous serez arrivé dans votre royaume. » Et Jésus lui dit, « en vérité, je vous le dis, vous serez aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Cette inscription, ce « titulum », c'est le nom, écrit en grec, en latin et en hébreu, j'ai eu la grande grâce de le voir, il est conservé, si mes souvenirs sont exacts, à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, avec un grand bout de la croix, avec un des clous, un flagrum avec lequel notre Seigneur Jésus-Christ a été flagellé, et entre autres, l'inscription, le titulum avec le titre « Jésus, roi des Juifs hein. ».« Jésus Nazarenus Rex Judeum ». J'ai déjà expliqué que c'est la raison pour laquelle sur beaucoup de crucifix anciens, sur la partie supérieure de la croix, il y a simplement les quatre lettres, parce que c'est trop compliqué techniquement, sur une petite croix, une petite inscription, d'inscrire toute la phrase en latin, en grec et en hébreu. Donc en général, on résume ça par les quatre lettres INRI. En fait, c'est JNRJ, puisque le I majuscule et le J majuscule sont identiques en latin. Donc JNRJ, Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, pourquoi en grec, en latin et en hébreu? Parce que c'était les trois grandes civilisations de l'époque. Cette triple inscription, disent les pères, signifiait, page 22, que les peuples les plus puissants, comme les Romains, les plus sages, comme les Grecs, et les plus religieux, comme le peuple juif, se soumettraient à l'empire de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va publiquement affirmer sa royauté juste avant de mourir, en ayant ce titre juste au-dessus de sa tête, Jésus, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pour bien rappeler qu'il est roi. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours roi, attention, il est même toujours roi, il est toujours roi même quand il est en train de mourir sur la croix le vendredi saint, attention. Hein. Donc, il y avait à la fois écrit en grec, en latin, en araméen, en hébreu. Pourquoi? Parce que l'hébreu c'était la langue du peuple, le grec c'était la langue des sages, et le latin c'était la langue de l'occupant, la langue des Romains. Alors Saint Grégoire nous dit que les pieds et les mains de ce voleur étaient attachés, donc ce voleur, ici on parle de Saint Dismas, le bon voleur, le bon larron. C'était un grand, grand mystère. Arriver à comprendre que le premier à profiter du sacrifice rédempteur, du sacrifice de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était un larron repentant. C'est pas directement notre Seigneur Jésus-Marie ou un des apôtres, non, un larron repentant. Qui a passé sa vie offensé Dieu. Et juste avant de mourir, il est sauvé parce qu'il fait un acte de foi, d'espérance et de charité. En fait, il élicite un acte de charité. Une charité parfaite, j'ai déjà expliqué dans d'autres endroits, je crois que c'est dû à une intervention directe de la Sainte Vierge qui avait reconnu dans cet homme celui qui avait reçu la Sainte Famille lors de la fuite en Égypte. Lorsque l'enfant Jésus était tout petit, bébé, ils avaient dû fuir en Égypte. Sainte Famille, Saint Joseph avait pris l'enfant et sa mère pour fuir en Égypte afin d'éviter d'être tué par le roi Hérode qui allait massacrer les saints innocents pour protéger l'enfant Jésus. Ils étaient partis en Égypte et le premier soir, ils avaient passé de la nuit dans en plein désert, déjà dans une pauvre masure en bord de désert qui appartenait dans laquelle habitait un bandit déjà à l'époque qui s'appelait justement Dismas. Et il a reçu la Sainte Famille. Et la Sainte Vierge, en quittant la maison, lui dit, parce que tu as reçu dans ta maison le Sauveur du monde, je demanderai pour toi, mon fils, la grâce de la bonne mort. Tu mourras en état de grâce. Et c'est ce qui va se passer. Donc c'est elle qui a obtenu cette grâce extraordinaire du bon larron, totalement des plus grandes grâces, la grâce de la bonne mort. Et dans quelles conditions il fait un acte de foi, d'espérance et de charité. On va expliquer tout ça. Donc les pieds et les mains de ce voleur étaient attachés à la croix avec des clous. Il n'avait pas libre, n'était pas libre. Il n'avait de libre de souffrance que le cœur et la langue. Donc Dieu lui inspire ainsi de lui offrir tout ce qu'il avait encore de libre, afin que selon la doctrine de l'apôtre, il crût de cœur pour être justifié, confessa de bouche pour obtenir le salut. Il ne demande pas directement pardon pour ses péchés, il le dit indirectement. Quand il dit « Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume », il fait un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Il reconnaît que cette personne qui est à sa gauche, qui est en train de mourir sur la croix, crucifié, est innocent, qu'il est roi, qu'il a un royaume hors de ce monde et qu'il va y régner. Et donc, il fait un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Ça correspond à un acte de charité parfaite. L'acte de charité parfaite efface tous les péchés, même à celui qui n'est pas baptisé. Et c'est un baptême, ça correspond à un baptême de désir. L'acte de charité parfaite, pour quelqu'un qui n'est pas baptisé, c'est un baptême de désir implicite, ou au moins explicite, implicite, et même parfois implicite, pardon, je répète, un baptême de désir au moins implicite, et parfois même explicite. Là, il fait publiquement un acte de foi. C'est ainsi que Dismas, cet heureux larron, remplit tout à coup de la grâce divine, reçut, conserva sur la croix les trois vertus dont parle encore l'apôtre Saint Paul, les trois vertus cardinales, la foi pour croire, l'espérance pour prier et la charité pour suivre les commandements, obéir à la loi de Dieu. Donc il fait d'abord un acte de foi, il faut bien comprendre ça, lorsqu'il dit « Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez arrivé dans votre royaume », c'est d'abord un acte de foi, Parce qu'il croit, il crut que celui qu'il voyait mourir avec lui régnerait un jour en Dieu, quand vous serez dans votre royaume. Manifestement, ce n'est pas un royaume ici-bas sous la terre, parce que l'homme à qui il parle est en train de mourir. C'est un royaume hors de la terre. Donc c'est un acte de foi extraordinaire. Et ça correspond à l'acte de foi. Je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, parce que étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Ceci est un acte d'espérance. Un acte d'espérance parce que non seulement il reconnaît que cet homme a un royaume hors de ce monde, mais qu'il espère y aller. Souvenez-vous de moi, acte d'espérance puisqu'il lui demanda l'entrée de son royaume. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel parce que vous l'avez promis, vous êtes fidèle dans vos promesses. Il faut souvent répéter ces actes de foi, d'espérance. Et faire répéter ces actes de foi, d'espérance et de charité à un mourant, c'est très important. Enfin, le Dismas, Saint Dismas, ce bon larron, fait profession aussi en mourant d'une vive charité, en reprenant de sa conduite coupable son compagnon et son complice, Gestas, qui mourait en punition des mêmes crimes. C'est un grand mystère, vous méditez là-dessus. Deux hommes, un bon, deux hommes mauvais tous les deux, l'un à côté, à droite, l'un à gauche de notre Seigneur Jésus-Christ, l'un se convertit par l'autre. Et si Gestas avait prononcé la même phrase du fond du cœur, souvenez-vous de moi, lorsque vous serez dans votre royaume, mon Jésus, il y aurait un Saint Gestas aujourd'hui. Dismas seul est au ciel. Gestas est vraisemblablement tombé en enfer. Il y a très peu de gens dont on est sûr qu'ils sont en enfer. La tradition nous dit qu'il y a Caïn qui a tué son frère Abel. Il y a aussi le mauvais larron et Judas. À cause de la parole de notre Seigneur, il eût mieux fallu pour cet homme qui ne fut jamais né. Donc il faut méditer ce salut de Saint Dismas, le bon larron. C'est vraiment sauver quelqu'un, la fumée des cierges, comme on dit un peu vulgairement. Donc c'est un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité. Dieu accorde toujours plus qu'on ne demande. Le larron le prie de se souvenir de lui. Et Jésus lui répond, en vérité, je vous le dis, vous serez avec moi dans le paradis. La vie, c'est d'être avec Jésus-Christ. Et là où est Jésus-Christ, là aussi est son royaume. Notez que le bon larron ne dit pas, prenez-moi avec moi, avec vous dans votre royaume, quand vous serez mort. Non, souvenez-vous de moi. Ne m'oubliez pas. Il n'ose pas peut-être demander d'être dans le royaume des cieux. Parce qu'il sait qu'il n'est pas digne. Il demande simplement que la miséricorde du bon Dieu s'applique sur lui. Et beaucoup de saints ont précisé que le miracle de la conversion de Saint Dismas, parce que c'est un miracle, convertir un pécheur, un gros pécheur comme ça, juste avant sa mort, c'est un plus grand miracle que de créer le ciel et la terre. Donc Théophylacte, on est à page 22 dans les commentaires. De même qu'un roi victorieux rentre un triomphateur dans ses états, portant avec lui les plus riches dépouilles, ainsi notre Seigneur, ayant enlevé au démon une partie de son butin, c'est-à-dire le larron, le porte avec lui dans le paradis. Il arrache, en quelque sorte, notre Seigneur arrache, juste avant de mourir, encore une âme qui était entre les pattes du démon. Là, il y a un beau commentaire des pères. Le démon avait chassé Adam du paradis et avait provoqué le fait que Adam fut chassé du paradis. Jésus-Christ introduit un voleur dans le ciel avant tous les hommes. Quelle humiliation pour le démon. Avant les apôtres eux-mêmes, une simple parole et la foi seule lui ont ouvert les portes du paradis afin que personne ne désespère d'obtenir la même grâce avec ses égarements. Rappelez-vous cette phrase de saint Augustin que j'ai souvent citée. Je dis souvent en sermon que... il y eut un bon larron pour qu'on ne tombe jamais en découragement. Mais il n'y en eut qu'un seul pour qu'on ne tombe jamais dans la présomption. Qu'est-ce qui est plus grave, la présomption ou le découragement? Je crois que les péchés les plus dangereux sont tous les péchés contre l'espérance. Vous voyez? Donc ne pensons pas qu'on va pouvoir faire la même chose. Hein. C'est vraiment une grâce insigne que ce Dismas, que Saint Dismas a reçu par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Très peu de gens vont recevoir cette grâce insigne. Pourquoi? Parce qu'en général, je dis bien en général, l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Donc je dis souvent ça, même en retraite, qu'en général, quelqu'un qui a vécu dans le péché mortel jusqu'au cou, toute la journée, il meurt comme il a vécu. Quelqu'un qui, au contraire, a essayé de vivre dans l'état de grâce, même s'il y a des chutes de temps en temps, il va mourir comme il a vécu. Il vit habituellement l'état de grâce, il va mourir en état de grâce avec la grâce du bon Dieu. Parce que les gens sont inquiets, ils me posent souvent cette question, Monsieur l'abbé, j'essaie de vivre en état de grâce, mais de temps en temps je tombe, qu'est-ce qui va se passer si je meurs alors qu'accidentellement je suis tombé en état de péché mortel? Eh bien, si vous vivez habituellement en état de grâce, ordinairement vous mourrez en état de grâce. Par contre, si vous vivez habituellement en état de péché mortel, ordinairement vous mourrez aussi en état de péché mortel. Donc, voyez, dit Théophylacte, avec quelle promptitude s'opère ce changement. Il passe de la croix dans les cieux, d'un supplice infâme dans le paradis, pour vous apprendre que c'est ici l'œuvre de la miséricorde de Dieu plutôt que l'effet des bons sentiments de ce grand coupable. Dieu a eu une miséricorde toute particulière qui s'est exercée sur l'âme de Saint Dismas, hein, à cause de l'intervention de la Sainte Vierge, j'ai déjà expliqué. Dans le sens figuré, au sens caché, donc au sens spirituel, ces deux larrons sont le symbole des deux peuples pécheurs qui doivent être crucifiés par le baptême avec Jésus-Christ, et leur conduite si opposée représente la conduite si différente de ceux qui ont embrassé la foi. Donc ça représente figurativement aussi les deux peuples, le peuple juif et le peuple qui va se convertir. Le peuple qui va se convertir, c'est le peuple des catholiques. Le peuple qui refuse sa conversion, c'est le peuple juif. Donc Gestas est associé au peuple juif comme Saint Dismas est associé au peuple des catholiques. Et si les juifs priaient le bon Dieu comme Saint Dismas avait prié son maître, eh bien les juifs se convertiraient comme Saint Dismas s'est converti. Un texte de Saint Bède le Vénérable. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort, dit Saint Paul. Eh bien, lorsque nous étions pécheurs, nous avons été purifiés dans les eaux du baptême. Cependant, les uns sont couronnés parce qu'ils glorifient le Dieu qui a daigné souffrir dans une chair mortelle, tandis que les autres perdent la grâce qu'ils ont reçue parce qu'ils ont renoncé à la foi et aux œuvres de leur baptême. Donc, un catholique qui abandonne la foi, qui abandonne la charité, qui meurt dans le péché mortel, est associé à Gestas. Alors qu'au contraire, un catholique qui vit en tête de grâce, qui se bagarre pour confesser souvent, communier souvent l'état de grâce, est associé à Saint Dismas. Donc faisons attention à bien conserver en nos cœurs la chose la plus importante que nous ayons, à savoir l'état de grâce. Je vous ai souvent dit que les anciens comparaient l'âme en état de grâce à un navire qui est en pleine tempête. Donc le vent souffle, les courants sont très violents, il y a des écueils partout. Et il y a les pirates en plus qui s'en mêlent, qui veulent essayer d'arraisonner le bateau. Pourquoi arraisonner le bateau? Parce que dans la cale du bateau, il y a un trésor. Et ils ne veulent pas ce trésor pour eux-mêmes. Les pirates veulent arraisonner le bateau pour descendre dans la cave, prendre le trésor et le jeter par-dessus bord. Eh bien, ce trésor incalculable qui est dans le bateau de notre âme, c'est l'état de grâce. Et le démon va donc tout faire pour pénétrer dans notre âme, descendre à l'intérieur de notre âme, nous voler l'état de grâce et le jeter par-dessus bord, en nous faisant commettre un péché grave. Lorsque le démon nous a fait commettre un péché grave, bien, il a détruit ce trésor incomparable qui était à l'intérieur de notre âme. Apprenons moralement donc de l'exemple du bon larron la force, l'efficacité, la promptitude de la grâce de Dieu, qui par la croix a fait d'un larron un saint homme. Si la conversion de Sainte Marie-Madeleine fut merveilleuse, page 23, comme celle de Saint Paul, plus merveilleuse encore fut celle du bon larron. Vous voyez, donc les pères vont jusqu'à dire que la conversion du bon larron est encore plus extraordinaire que celle de Saint Paul. Écoutez bien la raison donnée par les pères de l'Église. Sainte Marie-Madeleine avait été témoin des paroles et des miracles du Christ. Saint Paul avait ressenti sur lui la main forte du Christ. Mais le bon larron, par la croix sur laquelle souffrait le Christ comme un criminel condamné à une mort infâme et atroce, fut converti par des actes héroïques de foi, d'amour et de dévotion. C'est-à-dire, Saint Dismas n'avait pas entendu la prédication de notre Seigneur. Il n'avait pas vu les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne savait pas que notre Seigneur avait rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Ce qui n'était pas le cas de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, elle a assisté au sermon de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a vu les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle savait que notre Seigneur Jésus-Christ avait accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament parce qu'elle avait de la culture. Toutes ces choses que n'avait pas le bon larron. Donc le bon larron a beaucoup plus de mérite de s'être converti au dernier moment. Et notre Seigneur Jésus-Christ convertit le bon larron pour bien nous montrer que n'importe qui peut se convertir avec la grâce du bon Dieu. N'importe qui. Saint Vincent, je ne sais pas si c'est Saint Vincent martyr ou Saint Vincent Ferrier, je crois que c'est Saint Vincent Ferrier, qui nous dit que le bon larron fut converti par l'ombre du Christ et la croix qui le toucha alors que le soleil déclinait comme l'ombre de Saint-Pierre guérissait les malades. De plus, la Vierge Marie se tenait debout entre le Christ et le larron et obtint pour lui cette grâce de conversion. Donc la Sainte Vierge Marie se tenait à droite de la croix, entre la croix de son fils et la croix du larron. Elle était à genoux, debout, contemplant son fils mourant sur la croix, et par sa présence entre son fils et le bon larron, elle a servi d'aqueduc, en quelque sorte, de pont, qui allait faire passer les grâces de la croix à l'âme du bon larron. Et l'autre côté, la Sainte Vierge Marie n'était pas là, puisqu'elle était du côté droit. Côté gauche, il n'y avait pas la Sainte Vierge, et donc, gestalt, le mauvais larron n'a pas pu utiliser les grâces obtenues par la très Sainte Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, j'aime beaucoup cette phrase, des pères se tenait debout entre le Christ et le larron et obtint pour lui cette grâce de conversion. Alors certains, Saint Cyprien par exemple, évêque de Carthage, certains vont jusqu'à appeler le bon larron un martyr. Saint Cyprien qui dit ça dans sa lettre à Fabien. Car il fut baptisé par son propre sang, il souffrit pour le Christ. En fait, le larron n'avait pas besoin de martyr ou du baptême, car il fut sauvé par sa seule contrition. N'oublions pas, je vous l'ai expliqué déjà, que Saint Dismas a édicité un acte de contrition parfaite. L'acte de contrition parfaite efface tous les péchés, même les péchés originels pour quelqu'un qui n'est pas baptisé. Donc un païen qui n'est pas baptisé, qui élicite avec la grâce du bon Dieu, parce qu'il en faut une, par la grâce du bon Dieu, qui élicite un acte de charité parfaite, qui regrette tous les péchés de sa vie à l'instant de sa mort, à cause de par une contrition parfaite, en regrettant ses péchés par amour de Dieu, efface tous ses péchés. Non seulement il efface tous ses péchés, mais l'Église enseigne qu'un acte de contrition parfaite, non seulement encore une fois efface tous les péchés, mais efface aussi la peine temporelle des péchés. C'est-à-dire l'acte de contrition parfaite efface les peines du purgatoire. Donc quelqu'un qui meurt après avoir élicité un acte de contrition parfaite, même quelqu'un qui n'était pas baptisé, attention, hein, eh bien, qui meurt donc avec un baptême de désir, un acte de contrition parfaite qui est aussi un baptême de désir, eh bien par ce baptême de désir, il va droit au ciel, comme un martyr. Comme un martyr. C'est pour ça qu'on dit que Saint Dismas est mort comme martyr. Donc nul autre, j'ai oublié une phrase là, donc bien que Saint Dismas ne fut pas crucifié pour le Christ, il confessa le Christ crucifié et fut considéré par le Christ comme ayant été crucifié pour lui. Le Christ lui promit le paradis car il témoigna sur la croix de sa foi et de son espérance dans le Christ. Les Juifs accélérèrent sa mort à cause de sa confession. Saint Dismas est mort juste après le Christ, hein, puisque il y a eu d'abord le coup de lance et ensuite le brisement des jambes des condamnés, des deux autres condamnés. La prophétie disait que pas un seul des os du Christ ne serait brisé, donc il n'a pas eu le brisement des jambes. Les, romains pratiquaient sur les condamnés à la crucifixion, le brisement des jambes, parce que les jambes étaient brisées pour ceux qui n'étaient pas encore morts dans leur crucifixion, mais ils n'avaient plus de point d'appui et ils ne pouvaient plus à ce moment-là se soulever pour remplir leurs poumons d'air et expier l'air vicié. Donc ils mouraient immédiatement d'asphyxie complète, totale. Donc Saint Dismas a eu la crucifragium, le brisement des jambes, et à ce moment-là, il est mort, il est monté au ciel, tout de suite. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort juste avant lui, et son âme, l'âme du Christ, unie à sa divinité, était déjà descendue au limbe, dans lequel il va rester 36 heures, jusqu'à la résurrection, le matin de Pâques, le dimanche de Pâques, tôt le matin. Autre texte ici, de la chair de la croix, un texte que je vais en partie lire dans saint Thomas d'Aquin. Le bon larron prêcha le Christ au monde entier. Donc saint Paul prêcha comme un chérubin, le larron comme un séraphin. Saint Dismas acheta son salut de l'arbre, volant l'empire du paradis, obligeant Dieu à l'accepter. Saint Augustin dit également une très belle phrase, il dit: Ce Dismas a passé sa vie à voler. Juste avant de mourir, il trouva le moyen de voler le paradis. On l'appelle le voleur de paradis. Comme quoi, jamais trop tard. Dismas crut, non pas dans le temple, ni sur le trône de Dieu, dans sa gloire, mais sur la croix, dans les tourments. Encore une fois, il n'a pas vu la gloire de Dieu. Il n'a pas vu les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas entendu toutes les prédications enflammées de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait un acte de foi en voyant cet homme couvert de crachats, couvert de poussière, couvert de sang, couvert des blessures de la flagellation, couvert des blessures de la crucifixion, couvert des blessures du couronnement d'épines, de la flagellation. Il voit un homme qui est le rejet des hommes, qui est vraiment comme un ver, dit le prophète David dans son psaume numéro 21. Il voit cet homme et devine en quelque sorte que cet homme n'est pas simplement homme, qu'il est aussi Dieu. Et que c'est pour ça qu'il a un royaume dans lequel il va aller. Et qu'il a le pouvoir de le mettre du bon côté. Et c'est pour ça qu'il va prononcer cette phrase extraordinaire: souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. Donc, Dismas vit le Christ dans les tourments, mais adora le Christ comme s'il était dans la gloire. Il le vit sur la croix, mais le prit comme s'il était déjà assis au ciel. Il le voit, il l'appelle. Il le reconnaît comme roi des rois en disant: Seigneur, rappelez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Il voit le crucifié, il l'appelle roi. Il le voit pendu à l'arbre, mais pense au royaume des cieux. Quelle conversion pour un larron! On dit que Saint Dismas est le patron des voleurs. Bon, un peu gros comme expression, mais disons que Saint Dismas doit certainement, du haut du ciel, intervenir pour obtenir la conversion des voleurs. On ne peut pas dire que, même si on le dit un peu comme avec humour, que Saint Dismas est le patron des voleurs, on ne peut pas dire que Saint Dismas soit le patron de gens qui vivent dans le péché. Le voleur est quelqu'un qui s'oppose à la loi de Dieu, qui a dit: je ne volerai pas. Donc il voit le crucifié, il l'appelle roi. C'est très beau, ces phrases. Il le voit dans les tourments, il l'adore comme Christ. Il le voit sur la croix, il le prie comme est déjà au ciel. Il le voit crucifié, il l'appelle roi. Il le voit pendu à l'arbre, il pense au royaume des cieux. Quelle extraordinaire conversion que celle de Saint Dismas. Il faut prier Saint Dismas. Il est peu vénéré, c'est dommage. C'est dommage, c'est tellement un très très grand saint. Parce qu'il est... Beaucoup de saints sont passés au ciel après être passés par les purifications du purgatoire. Rappelez-vous Saint Curé d'Ars qui a vu l'évêque d'Arles, Saint Saturnin, dans une vision passer quelque temps au purgatoire à cause de prières qu'il aurait dû dire le matin qu'il a dit le soir. Donc Saint Dismas, lui, est passé directement au ciel, pas passé par le purgatoire, tout simplement parce qu'il est mort dans un acte de charité parfaite, et je vous l'ai expliqué, un acte de charité parfaite efface toutes les peines du purgatoire. Dismas comprit que le Christ portait ses blessures pour les péchés des autres. Il savait que ses blessures sur le corps du Christ n'étaient pas les siennes mais celles du larron. Il l'aima en reconnaissant ses blessures comme les siennes propres. Notre Seigneur prend sur lui nos péchés. Il est innocent Il prend sur lui notre culpabilité, ce qui fait que notre culpabilité ayant été prise par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui devenons innocents, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui devient coupable et qui va mourir du sacrifice des esclaves. Il fut plus admirable et honorable pour ce larron de croire au Seigneur dans ses liens, tombant sous les tortures, que devant ses œuvres puissantes. Donc il fut crucifié comme un voleur pour sortir comme un évangéliste, dit saint Athanase. J'aime beaucoup cette phrase. Il fut plus admirable et honorable pour ce larron de croire au Seigneur dans ses liens, tombant sous les tortures, que devant ses œuvres puissantes. Devant un grand miracle extraordinaire, Jésus, notre Seigneur qui multiplie les pains, les poissons, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, il est relativement facile de se convertir. On voit toute la puissance de la gloire de la divinité. Mais quand on voit un homme mourir comme le dernier des derniers, couvert des blessures de la passion, il faut vraiment une foi extraordinaire pour voir dans cet homme qui souffre le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Saint Jean Chrysostome appelle Dismas donc un prophète, le prédicateur des grandeurs du Christ depuis la croix qui devint le voleur du paradis. N'oubliant pas son ancienne profession de voleur, sur la croix, par sa confession, il vola le royaume. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le patron des voleurs. Parce qu'il a fini par voler le royaume des cieux. Voyez, on appelle les voleurs de paradis. C'est une expression qui est très belle, les voleurs de paradis. On appelle aussi voleurs de paradis, on appelle Saint Dismas le voleur de paradis, mais on appelle aussi les voleurs de paradis les bébés qui meurent après le baptême. On appelle les voleurs de paradis parce qu'ils n'ont fait aucun acte héroïque pour aller au paradis. Ils meurent juste après le baptême efface tous les péchés, les bébés n'ont qu'un seul péché, le péché originel, il est effacé par le baptême, donc un bébé qui meurt juste après le baptême voit droit au ciel. Droit au ciel. Et donc, les saints innocents, par exemple, peuvent aussi être considérés comme des voleurs de paradis. Ils sont morts martyrs, eux. C'est un pas supplémentaire. Ils sont morts martyrs parce que, j'ai déjà expliqué, je crois, Dieu a fait un miracle et a donné à ses enfants, qui étaient des nouveau-nés ou des bébés, la grâce de pouvoir utiliser leur volonté alors qu'ils étaient tout bébés. Il leur a donné la grâce qu'ils aient déjà une volonté formée pour qu'ils puissent accepter de mourir pour le Christ. Donc, il faut prier ce voleur de paradis, prier les voleurs de paradis. Il faut beaucoup prier les anges gardiens, beaucoup prier les saints innocents, beaucoup prier Saint Dismas. Tous ceux qui vivent dans le péché. Si nous vivons dans le péché, il nous faut prier Saint Dismas, parce qu'il s'y connaît en matière de péché. Il faut aussi beaucoup prier Sainte Marie-Madeleine. C'est pour ça que Sainte Marie-Madeleine est tellement populaire au Moyen-Âge, parce que les gens se reconnaissaient en elle. Ô larron, disent les pères, une belle, belle prière. Ô larron, soldat et compagnon du Christ, accusateur des Juifs, marchand du royaume, gardien du paradis, ô voleur, couronne de la croix, qui vous faites votre propre paradis en enseignant aux hommes comment le voler. Ô voleur, collègue des apôtres, le dernier à venir, mais le premier à être couronné. Vous qui avez acheté le Christ. Saint Fulgence appelle la réponse du Christ au pont larron son testament écrit avec la plume de la croix, que c'est beau. Aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. C'est le testament du Christ écrit avec son propre sang sur l'arbre de la croix. Donc Saint Dismas est inscrit au catalogue des saints au 25 mars, jour de l'Annonciation. Jour supposé de ses souffrances et de celles du Christ. Donc, beaucoup de pères pensent que notre Seigneur Jésus-Christ est mort le vendredi saint, qui était cette année-là, il y a de l'an 33, c'était le 25 mars, jour de l'Annonciation. Donc il est mort exactement 33 jours après son apparition sur ce monde, dans le sein très pur de sa mère. Pour bien montrer justement qu'il était venu pour souffrir. Donc voilà ce que dit le martyrologe romain. Martyrologe, c'est le livre qu'on utilise pour l'office de prime. L'office de prime, au milieu de la... Après les psaumes, les trois psaumes de prime. Prime, c'est l'office du matin, la première heure du jour, qu'on dit en principe à 6 heures. Eh bien, l'office de prime, au milieu de l'office, après les psaumes, on annonce le martyrologe du jour suivant. C'est-à-dire, on annonce les saints qui seront fêtés le jour suivant. Pas simplement le saint officiel de l'Église universelle, mais tous les saints qui sont morts ce jour-là. Donc voilà ce que dit le martyrologe à Jérusalem, la commémoration de Saint Laron qui confessa le Christ sous la croix et qui mérita de s'entendre dire « Aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. » Je vous lis la première ligne, en fait le texte de ce martyrologe du 25 mars, il commence ainsi, donc c'est le 8e jour des calendes d'avril, l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Ça, c'est la grande fête du 25 mars. Mais aussi, à Jérusalem, la commémoration du Saint Laron, qui confessa le Christ sur la croix et mérita d'entendre de lui ses paroles aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis. Mais c'est également la fête de Saint Quirin, martyr, un martyr à Rome, 262 saints martyrs dont on ignore les noms. À Sirmium, la passion de Saint Irénée, évêque et martyr. À Nicomédie, Saint Dule, servante d'un soldat. Elle fut mise à mort en défendant sa chasteté et mérita la couronne du martyr. À la Odyssée, au Liban, auprès du Liban, Saint Pélage, évêque. À Indrette, une île de la Loire, Sainte Herméland, abbé. À Pistoia, en Toscane, les saints confesseurs Barons et Dizier. À Montefiore, Fiascone, la naissance au ciel de Sainte Lucie, Philippini, Vierge. Donc il y a tous ces saints qui sont souvent inconnus et qui sont célébrés au martyrologe. Donc, tant que votre nom n'est pas dans le martyrologe romain, eh bien, vous n'êtes pas considéré comme canonisable, ou canonisé plutôt. Continuons d'avancer, puisque j'ai encore 10 minutes, avec les versets 44, 45 et 46 du chapitre 23 de Saint-Luc. Il était environ la 6e heure, 6e heure c'est midi, et les ténèbres couvrirent toute la terre jusqu'à la 9e heure. 9e heure c'est l'heure de Nod, 9e heure c'est donc 3 heures de l'après-midi. Le soleil fut obscurci et le voile du temple se déchira par le milieu. Et criant d'une voix forte, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Et disant cela, il expira. Alors voilà ce que disent les pères comme commentaire. « Je remets mon esprit entre vos mains. » Donc c'est la dernière parole de notre Seigneur. Tous ces textes sont très importants. Quand il est dit par exemple, « En criant d'une voix forte. » Cela montre que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi l'heure de sa mort. Car on meurt, un crucifié mourait par asphyxie. Quand il ne pouvait plus ouvrir ses poumons, plus surélever son thorax pour pouvoir insuffler de l'air frais et chasser l'air vicié, à ce moment-là, il mourait par asphyxie. Et quelqu'un qui meurt par asphyxie ne peut pas crier d'une voix forte, ne peut plus parler parce qu'il est complètement asphyxié. On n'a plus d'air, on ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Et là, il est clair qu'il est dit qu'il cria d'une voix forte en disant « Père, je remets mon âme entre vos mains. » Ça prouve qu'il a choisi le moment de sa mort. Et qu'étant Dieu, il a fait encore un miracle pour pouvoir crier, manifester encore une fois cette vérité, qu'il remettait son esprit entre les mains de son Père alors qu'il aurait dû être incapable de mourir par asphyxie, donc incapable de parler. Il a choisi l'heure de sa mort. Je remets mon âme entre vos mains. Par ces mots, nous témoignons d'abord que, à notre naissance, nous recevons notre âme, non pas de notre Père et de notre Mère, mais de Dieu seul. Nous devons la rendre au Christ, car nous sommes ses créatures. Nous n'appartenons pas à nos parents. Nos parents ne sont pas nos propriétaires, attention. Les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Ils sont les dépositaires de l'autorité de Dieu. L'autorité des parents sur leurs enfants participe à l'autorité de Dieu. Les parents ne sont pas propriétaires. Vous êtes un peu comme des grands aigles, le père et la mère, qui s'occupent des glons. Un jour, l'aiglon va devoir apprendre à tirer sur ses ailes. Il va devoir apprendre à voler. Un jour, il va quitter le nid. Vous n'avez pas le droit de conserver les enfants pour vous. Ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Certes, dans certains cas, hein, le bon Dieu peut permettre que vos enfants restent avec vous. J'ai connu des cas où des jeunes filles, par exemple, n'ont jamais pu se marier, ou n'ont jamais voulu se marier. Elles ont voulu s'occuper de leurs vieux parents jusqu'à la mort. Et elles sont restées à la maison toute leur vie, pratiquement. Mais les enfants n'appartiennent pas aux parents. Ils appartiennent à Dieu. Hein. Et donc, en quelque sorte... Le bon Dieu nous donne une âme, mais il faut la rendre au Christ, parce qu'elle appartient au Christ, elle a été sanctifiée par la mort du Christ, et Dieu va nous demander de rendre compte de notre gestion. Rappelez-vous cette phrase terrible de Saint Matthieu, « Rends compte de ta gestion au serviteur infidèle, au serviteur malhonnête, rends compte de ta gestion. » Rends compte de l'état de ton âme. Donc l'âme, attention, nous recevons notre âme au moment précis de la fécondation du bébé, au moment de l'apparition du bébé dans le sein maternel, au moment de l'union des deux gamètes, pour un cas d'un homme normal, d'une femme normale, quand on apparaît dans le sein de notre mère après l'union des deux gamètes masculines et féminines et qu'il y a début de vie, ce fœtus est déjà un bébé, un tout petit bébé, on appelle ça un fœtus, mais en fait moi j'aime pas utiliser le mot fœtus parce que c'est un mot qui laisse à croire que c'est pas un enfant, c'est un enfant, déjà tout petit, mais c'est un enfant. Il y a vie, et puisqu'il y a vie, il y a âme. Il ne peut pas y avoir vie sans âme. Donc dans cette petite âme qui est créée de toutes pièces par Dieu, au moment précis de la fécondation, il y a création par Dieu de l'âme de l'enfant. Avec toutes les puissances de l'âme, avec une intelligence, une volonté, un irascible, bien compréhensible, même si cette intelligence et cette volonté ne sont pas encore, naturellement, sont pas encore capables de s'exercer. C'est une intelligence qui est encore en puissance. Deuxième raison, nous témoignons par les mots « Je remets mon âme entre vos mains », donc d'abord que nous recevons notre âme comme prêt littéralement par Dieu. Deuxièmement, nous croyons que notre âme ne mourra pas mais survivra comme immortelle et retournera à Dieu qui nous l'a donnée, qui la jugera. Notre âme n'est pas éternelle, attention, elle est immortelle. Elle n'est pas éternelle parce qu'elle a été créée. Donc attention, on ne peut pas accepter la théorie de certains qui prétendent que notre Seigneur a pré-créé toutes les âmes. Toutes les âmes ont été créées depuis le début de l'histoire du monde et qu'à chaque fois que Dieu a besoin d'une âme pour donner un corps qui vient de se créer sur la terre, il va prendre une âme déjà créée. C'est faux, ça c'est de l'origine, c'est Origène qui a enseigné ça, c'est une des erreurs d'Origène. Passons à la page 24. Autre raison, nous croyons à la résurrection de la chair et nous recommandons notre âme à Dieu pour qu'il la garde comme un dépôt. En dépôt, nous la rendons à la résurrection des corps. Donc notre âme appartient à Dieu. Attention, nous sommes responsables. Rappelez-vous la parabole des talents. Je dois faire fructifier les talents qui m'ont été donnés. Ils ne m'appartiennent pas. Quatrième raison, à notre dernière agonie, en présence des démons, nous implorons l'assistance de Dieu en lui rendant notre âme pour pouvoir triompher des dernières attaques du démon. Nous demandons à notre Seigneur de Marie, demandons à Saint Dismas qui était là, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, d'intercéder pour que notre âme soit en état de grâce le jour de notre mort. Et puisqu'on meurt comme on a vécu, donc vivons l'état de grâce habituellement pour ne pas risquer de perdre notre âme au dernier moment. Donc il y a une obscurité, nous dit le texte sacré. Les ténèbres couvrirent toute la face de la terre jusqu'à la 9e heure. Donc Jésus a été crucifié depuis la 6e heure, midi, jusqu'à la 9e heure, 15h. 12h à 15h. Il est mort à 15h de l'après-midi, le vendredi saint. Donc cette profonde obscurité était la figure manifeste des ténèbres qui devaient se répandre dans l'âme de ceux qui avaient crucifié le Fils de Dieu. Ce prodige eut lieu pour montrer jusqu'à l'évidence que celui qui se soumettait à la mort était le maître et seigneur de toutes les créatures. Donc même les créatures matérielles vont reconnaître la mort du Christ. Le soleil va se cacher, les rochers vont se fendre, et même toute une série de saints vont ressusciter d'entre les morts. La tradition dit que Saint Joseph est ressuscité d'entre les morts à ce moment-là. Saint Ambroise nous dit que le soleil se voile aux yeux de ses sacrilèges pour ne pas éclairer le triste spectacle de ce crime affreux. Et les ténèbres se répandent sous les yeux de ses perfides pour rendre plus éclatante la lumière de la synagogue. Le voile ancien se déchire pour laisser l'Église déployer et suspendre les voiles nouveaux de la foi chrétienne. Le voile de la synagogue disparaît pour nous permettre de voir des yeux de notre âme les profonds mystères de la religion. Donc ce voile qui se déchire, c'est verset 45, le soleil fut obscurci, le voile du temple se déchira par le milieu. C'est la fin, si vous voulez, de la religion juive et le début de la religion chrétienne. Notre Seigneur, par sa mort sur la croix, ensevelit définitivement les pratiques liturgiques de la religion juive. Et aujourd'hui, suivre ces pratiques liturgiques de la religion juive, cela consiste à suivre des pratiques mortifères. on peut plus sauver que la religion des Juifs. La religion des Juifs était, je vous l'ai déjà souvent dit, était la véritable religion avant notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne l'est plus, puisque maintenant la religion catholique va suppléer à la religion des Juifs. Donc c'est le voile nouveau de la foi chrétienne. Le voile qui se déchire pour manifester non seulement le passage au Nouveau Testament, mais le passage aussi, la division de deux peuples. La Sainte Vierge est celle qui va orchestrer en quelque sorte cette division entre ses enfants et les enfants du démon. Rappelez-vous la promesse de la prophétie de Dieu au démon au moment du péché originel. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Et là, on le voit très bien. Eh bien, cette inimitié est manifestée par le voile du temple qui se déchire. C'est encore une figure, nous disent les pères, que le voile qui nous séparait des mystères du ciel est déchiré, c'est-à-dire que l'inimitié de Dieu et le péché sont détruits. Voilà, je vais arrêter là. Puisque ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Donc relisez ces passages magnifiques des pères de l'Église. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre, beaucoup de grâce à obtenir en méditant la passion du Christ. Et c'est plus quel est le saint qui disait qu'il fallait mieux méditer la passion du Christ de temps en temps que de passer sa vie au pain sec et à l'eau. Et plus de grâce en méditant la passion du Christ. C'est un bon chemin de croix, par exemple. Donc nous verrons tout cela, continuerons la prochaine fois. Donc je pense que la prochaine fois, je devrais pouvoir terminer le chapitre 23. Et là sera ensuite le chapitre 24, chapitre de la résurrection. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.